Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Veuille ou non, et il le sait, notre invité sera toujours l'un des visages marquants et l'une des voix associées à la vague d'attentats que le pays a connue entre 2012 et 2018. Un visage grave, mais une voix rassurante. C'est comme ça, il a été projeté, malgré lui, dans une actualité monstrueuse. Des faits inqualifiables, qu'il a bien été obligé de qualifier. Des agissements inhumains qu'il a réussi à atténuer. Un tout petit peu, par son ton, par son professionnalisme, par ses informations factuelles, dénuées de jugement et toujours empreintes d'humanité. Les guerres révèlent des généraux, les attentats ont fait surgir le procureur de Paris, a écrit un jour Le Monde, peu après les attaques terroristes de novembre 2015. Parce que c'était cela son métier, magistrat du parquet. 46 ans d'exercice qu'il décrit dans ses mémoires au nom du peuple français, paru chez Flammarion. La Corse, Lyon, Bobigny, Paris, la Cour de cassation... Partout où il est passé, il a marqué et il a été marqué. Tout son livre en témoigne. Pourquoi ce livre d'ailleurs? Avait-il besoin d'écrire pour mettre à distance les horreurs qu'il a vues? Les rendez-vous avec les Français lui manquaient-ils? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un monde à regard. Bienvenue François Molins, merci. Bonjour. D'avoir accepté notre invitation ici au Sénat, un lieu que vous connaissez bien. Au-delà de la pédagogie que vous avez eu envie de faire autour du fonctionnement de la justice, est-ce qu'il y avait quelque part au fond de vous une envie de retrouver les Français dans cet ouvrage? Est-ce qu'il vous manquait les Français?
Oui, nécessairement, et c'est le cas à travers effectivement deux raisons plus particulières pour lesquelles j'ai eu ce projet d'écriture que je suis arrivé à réaliser. La première, c'était un fil rouge qui consistait à mieux expliquer la réalité, le contenu du métier de procureur. Parce que je me suis rendu compte que mes compatriotes, en fait, le connaissent très mal. Je le dis dans le livre, comme une fois on m'a appelé Monsieur le Préfet, Monsieur le Juge, Votre Honneur ou Monsieur le Commissaire Molins. Donc informer et effectivement expliquer à des gens qui ne sont pas des juristes, qui sont hors la justice, comment ça fonctionne et que fait un procureur. Et la seconde raison, c'est aussi en lien avec les Français, c'est aussi l'explication du titre, au nom du peuple français. C'est une façon de rappeler que dans la crise de légitimité qu'elle traverse, la justice est rendue au nom du peuple français, et c'est parce qu'elle est rendue au nom du peuple français que moi j'ai pensé qu'il était aussi légitime à un moment donné de rendre compte en quelque sorte de ce que j'avais fait.
Vous leur deviez.
Tout à fait.
Un ancien ministre de la Justice, Michel Mercier, vous a dit un jour, François, vous êtes entré dans la vie des Français. Ouais. Et c'est vrai que les gens vous demandent des selfies dans la rue. Oui. Vous avez un lien très particulier. Est-ce qu'il vous a aidé ce lien aussi pour traverser tout ce que vous avez traversé?
Ça m'a aidé, effectivement, parce qu'on ne l'avait pas vu au début. Hein, ça, on ne l'a pas perçu immédiatement et assez rapidement, on nous a dit qu'on rassurait. À travers, on essayait de délivrer une parole qui soit claire, qui soit neutre, qui soit précise, qui soit objective. Donc on rassurait. Et le jour où on nous a dit ça, on a essayé de l'intégrer. Et effectivement, moi j'ai toujours été frappé par... et ça continue maintenant dans les rencontres dédicaces, j'ai toujours été frappé par le degré de bienveillance dont je bénéficie de la part des gens qui viennent me voir. Mmh. Alors j'ai beau me dire, bon, ceux qui viennent te voir, c'est parce qu'ils t'aiment bien, les autres ne viennent pas, mais
le lien est particulier.
Ça continue à m'étonner.
On a l'impression que vous apparaissez quand même comme un recours. Est-ce que le fait d'apparaître comme un recours pourrait un jour se traduire autrement que par un livre ou par les fonctions que vous avez occupées? Est-ce que cela pourrait se traduire par un mandat?
Non.
Vous souriez parce que vous y avez pensé ou on vous l'a suggéré?
Non.
Jamais?
Non. Si, j'ai eu des propositions, je ne dirais pas lesquelles que j'ai refusées. Moi, j'ai décidé de continuer à me rendre utile, mais me rendre utile autrement. En tout cas, pas avec de la politique.
Pourquoi?
Parce que ça ne m'attire pas, que je suis trop attaché à mon indépendance et à ma liberté. Et je trouve que la politique, c'est quand même très souvent l'art des compromis. Et je n'ai pas envie de me trouver dans des situations où je serais tenu de porter, de défendre des choses auxquelles je n'adhérerais pas totalement. À l'âge que j'ai, je pense que c'est quelque chose que je peux me permettre.
Les horreurs, vous en avez beaucoup vu. Je vais les énumérer un petit peu parce que vous en parlez beaucoup dans ce livre. Mars 2012, avec la tuerie dans l'école juive Ozara Torah à Toulouse, filmée avec la GoPro de Mohamed Merah. Jamais je n'avais visionné de telles scènes d'assassinat. Les cris des enfants, la détermination du tueur qui, sur le trottoir, achève les petits d'une balle à bout portant. 7 janvier 2015, le massacre dans la rédaction de Charlie Hebdo. De ma carrière, je n'avais jamais vu ça. C'était une scène de guerre, une odeur collante de sang et de poudre, insoutenable. Le sang encore, le 13 novembre 2015, quand vous entrez dans la salle du Bataclan, vous écrivez « Je ressens jusque dans ma chair cette atmosphère lourde au goût de sang, cette chape de silence et de sidération qui vient à nouveau s'abattre sur nous. Une scène dantesque, écrivez-vous. Suivront Magnanville, Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray et d'autres encore. Qu'est-ce qu'on se dit quand on vit tout cela? Est-ce qu'on a l'impression, malgré la fonction, d'être finalement assez impuissant ?
Oui, complètement, parce que déjà, on culpabilise aussi toujours un peu parce qu'on se dit qu'on a travaillé pour éviter ces attentats et que malgré tous les efforts qu'on a fait, tout le travail qu'on a fait avec les services de police, les services de renseignement, mais les attentats ont eu lieu quand même. Donc, quelque part, déjà, on ne vit pas bien. Mmh. Et effectivement, ensuite, quand on est confronté à cette horreur, on aimerait que ce soit pas vrai, quoi. Hein. Moi, j'ai un peu connu ça, d'ailleurs, au niveau du Bataclan. Je pense que j'étais dans une attitude de déni de la réalité. Je pense que dans mon fort intérieur, je refusais de croire que c'était arrivé.
Vous en avez gardé des séquelles ?
Je pense que c'est quelque chose avec lequel je vivrai jusqu'à la fin, c'est sûr. Je ne veux pas parler de séquelles. Et puis, moi, j'ai beaucoup relativisé ces questions-là parce que chaque fois que je me suis posé ce genre de questions, j'ai toujours beaucoup relativisé en me disant que quoi que j'ai pu ressentir ou éprouver, ça n'avait de toute façon rien de commun à voir avec ce qu'avaient pu ressentir les gens qui avaient souffert de leur chair et ceux qui avaient perdu des êtres proches. Donc ça m'a permis aussi...
Mais tout de même, en lisant votre livre, je me suis demandé s'il existait par exemple des cellules psychologiques pour les procureurs. Est-ce que vous avez eu un suivi psychologique? Est-ce qu'il était obligatoire?
J'en ai provoqué une, moi, à l'époque. Après Charlie Hebdo, on avait eu une visite de Christiane Taubira, qui était garde des Sceaux, qui était venue remercier la section C1, le parquet de Paris, donc, de son action au cours des attentats. Et je savais qu'on avait repéré 3 ou 4 collègues qui, véritablement, n'allaient pas bien. Oui. Donc, on a profité pour lui demander une assistance psychologique. Et on a eu une psychologue spécialisée dans ces questions qui a été mise à notre disposition 2 jours après. Donc, on a été... Moi, j'ai voulu donner l'exemple. Je suis allé le premier pour qu'il n'y ait pas de
gêne
à oser le faire. Des collègues ont suivi. Je pense qu'on a été une bonne douzaine à aller consulter. Il y en a 2 ou 3 qui ont dû... partir sur un suivi à moyen et long terme.
Est-ce que sans vous y habituer, évidemment, vous avez fini par acquérir un savoir-faire dans les mots à employer, à prononcer ou à ne pas prononcer tout au long de ces conférences de presse que vous avez données?
Oui, bien sûr.
Avec des mots que vous vous êtes interdits?
On apprend progressivement. Moi, je n'ai pas eu beaucoup de formation en matière de communication. Je crois qu'en tout, j'ai eu une demi-journée à la fin des années 90 à la chancellerie. Donc, en fait, j'ai appris sur le tas. J'ai fait parfois des erreurs en matière de communication dont je me suis rendu compte, donc que j'ai pu corriger. Et petit à petit, à force de communiquer, c'est comme tout, à force de faire, on se perfectionne. Mais je n'étais pas tout seul aussi, notamment au niveau du parquet de Paris, j'avais la chance d'avoir un magistrat chargé de communication. Et on fonctionnait dans une petite équipe de 5 ou 6 personnes. C'est un vrai travail collectif, avec toujours une exigence de rigueur, de précision, et puis de respect d'un certain nombre de principes éthiques. Parce que
principe, l'enjeu, c'est quoi? C'est d'éviter quoi
Déjà, un procureur qui communique, il doit respecter les grands principes du code de procédure pénale. Il faut respecter la présomption d'innocence. Alors, vous me direz que s'agissant de terroristes neutralisés par la police, elle perd un peu de son intensité. Mais il faut aussi respecter la dignité des victimes. Bon, il y a des mots que je me suis toujours interdit d'utiliser.
Lesquels ?
Notamment donner des détails sur des scènes de crime ou des autopsies. J'étais pas là pour faire souffrir les proches des victimes, donc ça n'aurait rien apporté. Et enfin, essayer de préserver autant que faire se peut la confidentialité des investigations. Donc il y a des choses qu'on peut dire, mais il y a aussi des choses qu'on doit garder confidentielles pour ne pas compliqué outre mesure la tâche des enquêteurs.
En lisant votre livre, je me suis aperçue que partout où vous avez exercé, vous avez quand même vécu des drames qui sont rentrés dans l'histoire. Mmh. Je ne vais pas tout dévoiler de votre ouvrage, mais quand même, votre passage en Corse est marqué par la catastrophe de Furiani. Mmh. 5 mai 92, 19 morts, 2357 blessés. Lors de votre passage à Lyon, vous vivez l'attentat attribué à Khaled Kelkal. Oui. 7 septembre 95, véhicule piégé devant une école juive à Villeurbanne. Bobigny, vous devez gérer le drame de l'affaire Ziyed et Bouna, mort électrocuté après avoir fui les policiers le 27 octobre 2005 à Clichy-sous-Bois. C'est le lot de tous les procureurs où votre parcours à vous a été particulier, singulier.
Des fois, je me dis que je dois être un peu chat noir, parce qu'effectivement, j'ai eu des affaires très lourdes, donc, quasiment dans tous les postes que j'ai occupés. Mmh. Bon, c'est comme ça. Après, si vous voulez, c'est aussi ce que j'ai voulu dire à un moment dans le livre, les carrières sont beaucoup dues au hasard des rencontres. On a la chance ou pas de rencontrer des gens qui vous inspirent plus particulièrement. Moi, ça a été mon cas. Et puis aussi au hasard des événements, il s'est trouvé, moi, qu'effectivement, en occupant certains postes, j'ai eu à m'occuper de dossiers particulièrement emblématiques et qui m'ont mis, de fait, sous la lumière des projecteurs, sans que j'aie à le demander.
Vous auriez pu fuir ? Vous auriez pu refuser ?
Non, parce que ça fait partie des responsabilités, donc il faut les assumer. Mais j'ai des collègues qui ont eu beau... Je ne sais pas s'il faut parler de chance, mais en tout cas, qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir des dossiers aussi lourds dans tous les postes où ils sont passés.
Dans l'affaire Ziyed et Bouna, qui est suivie de plusieurs nuits d'émeutes en banlieue, vous découvrez aussi à quel point le politique peut venir impacter votre travail. Dans le livre, vous parlez d'un feu attisé par les déclarations du ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui, dès sa première prise de parole, exclut la faute policière et déclare que les trois victimes n'étaient pas poursuivies par la police. Est-ce que c'est arrivé souvent que votre travail soit pollué par les responsable politique ?
Mais c'est arrivé quelquefois. Mmh. C'est arrivé quelquefois. Et puis, d'ailleurs, ça continue. Hein. Les politiques devraient, normalement, dans un monde idéal, éviter de s'exprimer sur les affaires en cours. Mmh. Parce que dès qu'ils disent quelque chose sur les affaires en cours, ça vient immédiatement compliquer la perception du dossier et le fonctionnement institutionnel des différents acteurs. Mmh. On l'a encore vu récemment, c'est quelque chose qui est fait régulièrement et il serait mieux inspiré de s'en dissuader et de laisser la police et la justice fonctionner normalement.
Parce qu'il vous empêche de travailler sereinement, parce qu'il vous influence.
Il crée des points tout de suite qui vont devenir des polémiques, qui vont cliver. Hein, qui vont être clivantes pour les différentes opinions et qui peuvent... alors, je ne dis pas que ça participe toujours d'une mauvaise intention. Peut-être le font-ils parfois pour apaiser, mais je trouve que souvent, ça contribue plus à attiser qu'à apaiser.
Vous avez pu le dire, ça. Vous avez pu même leur dire à eux, à ces responsables politiques, au moment des dossiers, en disant, s'il vous plaît, monsieur le ministre...
En tout cas, je le dis un peu dans le livre, déjà. Mais... Non, parce que moi, j'avais eu la chance, si vous voulez, notamment au niveau des années, ce que j'appelle les années noires, donc les années 2012 à 2017 pour le terrorisme, notamment sur les années 2015, 2016, 2017. Pour ça, j'ai eu finalement le contre-exemple, j'ai eu la chance de travailler avec des politiques qui n'ont pas fait de commentaires et qui ont fait confiance à la justice. Mmh. Et effectivement, moi, je garderai toujours le souvenir du politique au moment des attentats majeurs qui nous ont fait confiance, qui nous ont laissé travailler.
Vous pensez à qui particulièrement ? Bernard Cazeneuve
François Hollande, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Christiane Taubira. C'est vrai qu'à l'époque, on nous a fait confiance, on nous a laissé travailler. Et les choses sont beaucoup plus faciles quand on laisse les acteurs judiciaires faire leur travail correctement, en toute sérénité.
Lorsque vous êtes procureur général près la Cour de cassation, vous déclenchez des poursuites à l'encontre d'Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Il a été relaxé en décembre 2023. Et sur ce dossier, vous dites que vous avez fait ce que n'importe quel procureur aurait fait avec les éléments dont il disposait. Et pourtant, des journalistes continuent de dire que vous haïssez, là aussi, la relation avec le responsable politique. Est-ce que tout cela, c'est du fantasme de journaliste ? Est-ce qu'effectivement, il y a un peu quelque chose de l'ordre de l'histoire du magistrat contre l'avocat ? Est-ce qu'il y a un peu de ça ?
Peut-être que ce que disent les journalistes est peut-être aussi la conséquence du système de défense qui a été adopté par le ministre, qui en réalité, à partir du moment où il a été impliqué, bon, son innocence a été déclarée par la CJR, mais à partir du moment où il a été impliqué dans ce dossier et accusé, il n'a eu de cesse de vouloir mettre en cause l'impartialité du parquet et des juges d'instruction. D'accord. Donc effectivement, ce que vous dites montre que ça a relativement bien fonctionné. Moi, je n'ai jamais eu de haine ni de vengeance dans tous les les dossiers que j'ai traités. Et je répète et je répéterai toujours ce que j'ai fait. N'importe quel procureur général l'aurait fait comme moi. Pourquoi ? Parce qu'il y était obligé. Parce que devant la Cour de justice de la République, le véritable feu vert aux poursuites, il n'est pas donné par le procureur général, il est donné par la commission des requêtes, qui donne un avis en réalité sur les plaintes qui sont déposées. Et c'est elle qui va donner un feu vert, qui va lier le procureur général. Donc n'importe quel autre procureur général aurait fait comme moi, il aurait engagé des poursuites et saisi les juges d'instruction, il l'aurait fait parce qu'il y était obligé de par l'avis de la commission des requêtes.
Vous dites jamais de haine et je comprends jamais d'affect finalement dans les histoires que vous traitez. Tout de même, pour revenir du coup d'un mot sur le terrorisme, est-ce qu'il vous est arrivé de ressentir de la haine ?
Non, jamais.
Jamais ?
Non.
Malgré les images que vous voyez, les témoignages auxquels vous aviez... Non. Accès.
J'ai des tas de défauts, mais pas celui-là. Moi, j'ai toujours... Alors, dans une vie de magistrat, on y arrive plus ou moins bien. Mais j'ai toujours essayé de ne pas faire des dossiers, des affaires personnelles. Ce n'est pas toujours évident, je le reconnais. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de faire.
Parce qu'il y avait un risque que la France bascule.
Je suis arrivé plus ou moins bien à ça.
Parce qu'il y avait un risque que la France bascule dans une forme de haine. Elle était là, la haine.
Mais c'est ce qu'attendaient les islamistes. Les djihadistes attendaient en réalité, à travers la commission des attentats, d'instaurer une forme de fracture au sein de la communauté française pour la fracturer.
Et vous ne vouliez pas rentrer
là-dedans. Et créer un climat de guerre civile. C'est ça qu'ils cherchaient, en fait.
Vous n'aimez pas beaucoup parler de votre vie personnelle, mais le principe de l'émission, c'est tout de même de se pencher un petit peu sur le parcours personnel de notre invité pour comprendre qui il est aujourd'hui. Vous avez grandi dans un village de 700 habitants dans les Pyrénées-Orientales. Vous décrivez une enfance ballottée au gré des affectations de votre père, qui était médecin militaire dans l'armée coloniale. Vous avez passé 4 ans au Bénin, par exemple. À 12 ans, vous êtes envoyé en pensionnat chez les jésuites, mais vous n'êtes pas du tout un enfant docile, d'après ce que je comprends. Vous êtes souvent puni. Et vous aimez les interdits. Ça m'a paru paradoxal de vous être tourné ensuite vers le droit, quand on est un enfant qui n'aime pas les interdits ou un jeune qui n'aime pas les...
Mais parce que la période de vie à laquelle vous faites allusion renvoie à une époque où je pense que ma personnalité était en cours de construction. Donc, je n'étais pas très mature. J'avais un côté un peu chien fou. Effectivement, il y avait le plaisir de l'interdit. Je me suis façonné tout doucement et j'ai fini par... le jour où j'ai mûri, tout ça s'est réglé, j'allais dire, de la façon la plus naturelle qui soit.
La magistrature, plus un choix raisonné qu'une vocation, dites-vous.
Oui.
Il y avait une carrière, une autre carrière secrète que vous aviez envie de...
Non, mais j'aurais été matheux, scientifique, j'aurais peut-être pu être médecin, parce que c'est des choses qui m'auraient bien plu.
Et avocat, certainement pas ?
Non, non.
Pourquoi ?
Non, parce que, pour plusieurs raisons... D'abord, je n'avais pas envie de me fixer dans un lieu et dans une ville. Et quand vous êtes avocat, bon, je sais bien qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des cabinets secondaires et travailler en plusieurs villes, mais à l'époque, l'avocat, il colle sa plaque au pied d'un immeuble et puis il va y passer sa vie. Je pense que j'aurais aussi mal vécu le... on n'a pas toujours le même rapport à la vérité avec les avocats. Et je pense que j'aurais mal vécu l'honoraire, ce fait de devoir convertir en honoraire le temps passé sur un dossier et aller discuter ça avec le client. Je pense que c'est quelque chose qui ne m'aurait pas plu. Et puis moi, j'avais envie d'aventure, en fait. Donc je voulais bouger, je voulais de la mobilité. Et je pense que la magistrature correspondait peut-être davantage à mon idéal de justice et de vérité. J'étais davantage acteur en y rentrant.
À la lueur de celui que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous au petit garçon que vous étiez ? Que lui diriez-vous avant qu'il ne se lance dans la vie ?
D'être plus patient.
Ah ouais ?
Je dis ça parce que c'est un défaut que j'ai toujours eu. Je suis un grand impatient, moi. Mais je pense effectivement que la vie apprend les vertus de la patience. Il y a une des 4 statues là qui... La vie apprend la vertu de la patience. Et effectivement, je pense que moi, je crois beaucoup, surtout à la valeur travail. Je pense que quand on travaille beaucoup, quand on travaille bien, quel que soit le territoire d'où on vient, la famille d'où on vient, le milieu d'où on vient, Tout est permis, tout est autorisé.
J'ai un document à vous proposer, François Molins. Il s'agit d'une archive délivrée par nos partenaires, les Archives nationales. C'est une note sur l'évolution de la proportion du budget du ministère de la Justice entre 1948 et 1958 dans le budget général relatif aux dépenses civiles ordinaires. Et on y découvre ces chiffres. En 1948, le budget de la justice représente 1,12% des dépenses. Et cette proportion reste relativement stable pendant plusieurs années, jusqu'au début des années 50. Et puis patatras, 1956, elle passe sous la barre des 1% pour ne représenter que 0,79% du budget de l'État en 1958. Aujourd'hui, on est aux alentours de 1,6%. C'est beaucoup de chiffres, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce document, cette baisse des dépenses dans la justice ?
Je ne savais pas qu'il existait. Effectivement, la baisse en 10 ans, passer de 1,12 à 0,78, en plus 58, c'est l'avènement de la Ve République, où on va poser les bases du régime dans lequel on vit toujours aujourd'hui, ça c'est impressionnant. Ben, ça montre bien quelque chose qu'on sait depuis longtemps, c'est, je ne veux pas parler de désaffection ou des amours, mais la spécificité de la place de la justice dans la société et la considération qu'on a pour elle, qui montre qu'en réalité, il n'y en a pas beaucoup de considération. Aujourd'hui, on a fait des progrès. Quand j'étais directeur de cabinet du garde des Sceaux en 2009, le budget était à un peu plus de 5 milliards. Et on parle maintenant, en 2027, d'un budget à 11. Donc c'est...
Parce que selon la Commission européenne pour la justice, la France dépense un peu plus de 72 euros par an, par habitant, pour son système judiciaire, quand l'Allemagne y consacre plus de 141 euros,
tout à fait.
La France est moins attachée à la justice que d'autres pays européens ?
Oui, alors c'est toujours délicat de comparer les situations des différents États parce que les systèmes juridiques ne sont pas forcément les mêmes et la politique de ressources humaines n'est pas forcément la même.
D'accord.
En Allemagne, il y a des tas de petites infractions qui sont poursuivies sur un mode administratif, notamment en matière de circulation routière. Il y a des greffiers très particuliers qui aident les magistrats. Le système juridique est différent.
D'accord.
Mais il n'empêche que la France est quand même dans le bas du classement. Ça, c'est certain.
Vous l'avez vécu, ça, dans votre quotidien de magistrat, ce manque de moyens, très concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire pour que les gens qui nous écoutent comprennent ?
Moi, j'ai vécu, si vous voulez, des périodes d'amélioration et de dégradation. C'est-à-dire que, avec le recul, je vais parler du pénal surtout.
Oui.
J'ai vécu une époque, là je parle de la fin des années 80 et du début des années 90, où à travers des innovations parquetières, comme le traitement en temps réel notamment, on est arrivé avec des nouveaux modes de poursuite et de classement à réduire le traitement, les délais de traitement des dossiers. C'est les maisons de justice, c'est le traitement en temps réel. On invente les convocations par officier de police judiciaire, etc. Et donc, il y a eu une époque, effectivement, où dans les années 90-2000, ça allait mieux. Et ça repart, redégradation. Moi, je pense que depuis 20 ou 30 ans, les choses se sont beaucoup dégradées parce que, comme on l'a dénoncé avec le comité des États généraux, on souffre dans ce pays d'une vision qui est beaucoup trop légicentrée. C'est-à-dire qu'on fait des textes, on empile les textes, on empile les réformes, en se concentrant davantage sur les réformes que sur les moyens de les mettre en œuvre et de les appliquer. Et avec ce système, pendant 20 ans, on a passé son temps, entre guillemets, à accumuler les réformes et à accroître en permanence la charge de l'institution judiciaire pour les mettre en application, alors qu'on ne lui donnait pas les moyens effectifs de le faire. Et tout ça, effectivement, s'est traduit par
un appauvrissement.
Ce phénomène, un appauvrissement, une redégradation des délais et une situation qui, finalement, a abouti à la tribune des 3000 devenus 8000 il y a 2 ans, où des magistrats, les plus jeunes en général, se sont rebellés contre cette situation en déplorant la perte de sens de leur action au quotidien. Ça ne sert à rien de prononcer des peines si on n'est pas capable de les exécuter. Ça ne sert à rien de prononcer des peines d'amende si on n'est pas capable de les recouvrer.
J'ai des photos à vous proposer. C'est un autre rituel dans cette émission, François Molins. La première photo, la voici, vous le reconnaissez, c'est le petit Grégory retrouvé mort en 1984, l'une des affaires les plus retentissantes de l'histoire. Les parents ont obtenu une nouvelle série d'expertises, puisque l'intelligence artificielle peut permettre d'identifier des ADN inconnus. L'intelligence artificielle, vous pensez qu'elle va révolutionner la façon d'instruire, la façon d'enquêter ?
Il faut faire attention avec l'intelligence artificielle. Elle peut apporter beaucoup de choses, mais ça doit rester un instrument. Hein, et il faut surtout la contrôler. C'est-à-dire que les potentialités modernes qu'elle apporte doivent être mises au service de la justice. Mmh. Mais ce n'est pas elle qui doit prendre le pouvoir. Mmh. Donc je pense qu'elle peut apporter quelque chose en termes d'accès à la justice. Je pense notamment à l'open data. Elle peut apporter des choses sur les façons de travailler. Elle peut apporter des choses sur les process. Elle peut apporter des choses, bien sûr, sur les sujets que vous évoquez. Mais elle n'a pas à remplacer les magistrats dans leur office. Et ça, il faut bien faire attention, c'est un vrai danger pour moi.
J'ai une deuxième photo à vous proposer, pas plus réjouissante, ce sont les photos des suspects des attentats de Moscou. Ce sont des photos qui ont fait le tour du monde, on y voit des hommes pas encore jugés, déjà punis, ou en tout cas qui ont fait l'objet de tortures. Qu'est-ce qu'elle dit de la justice russe, cette photo, et de la nôtre en miroir?
Ouais, c'est... Sous l'angle torture, c'est des choses qui ne se passeraient pas chez nous. Hein, ça, clairement, parce que c'est indigne d'aller torturer pour le faire parler quelqu'un qui est en garde à vue. J'ai vu effectivement les images de cet homme avec l'oreille à moitié arrachée, hein, plein de sang. Non, c'est indigne.
L'homme de justice que vous êtes réagit comment quand il voit ça à la
télévision ? C'est pas normal, on est aux antipodes de la justice. Mais je pense que tout ça est parfaitement prémédité en termes de gestion de l'opinion publique à la suite de l'attentat qui a été commis. Hein. Ils savent très bien ce qu'ils font. Non, mais c'est... regarder l'idéal de justice, c'est parfaitement indigne. Après, la présomption d'innocence s'applique à tout le monde, hein, même aux terroristes. Hein, contrairement à ce que pensent certains avocats, la présomption d'innocence, c'est erga omnes. Et puis après, ce que ça m'inspire surtout, c'est que ça vient illustrer en réalité la permanence, pour ne pas dire la résurgence d'une forme de menace qu'on pensait avoir baissée, hein, parce qu'on pensait surtout à la menace endogène, on pensait aux terroristes endurcis qui ont fini leur peine, qui sont sortis de prison, mais ça vient nous rappeler effectivement qu'il y a un risque exogène qui est représenté par les membres de ces communautés russophones avec tous ces districts de l'Est de la Russie, hein, Tchétchénie, Daghestan, Tadjikistan, Ouzbékistan.
L'approche des JO à Paris vous inquiète ?
Ingouchie. Et je pense qu'effectivement, le risque est là et qu'il faut être particulièrement vigilant par rapport à ces communautés.
Les JO, ça vous inquiète ?
Comme tous les grands événements, comme tous les grands événements sportifs depuis 30 ans.
C'est un moment de grande vigilance.
Mais je pense que les services de renseignement sont extrêmement vigilants sur tout ça.
Une dernière photo, François Molins, il s'agit de Jacqueline Sauvage, graciée en 2016, après avoir été condamnée pour le meurtre de son mari qui la battait. À propos de ces femmes qui commettent le pire, poussées à bout, Brigitte Macron a déclaré ceci: « Je sais qu'on ne doit pas tuer, mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre ?» Qu'est-ce qu'on en pense quand on a été l'ex-directeur adjoint des affaires criminelles et des grâces?
Moi, je pense que rien ne peut justifier le fait de tuer. Hein. Les cours d'assises sont effectivement peuplées de ce genre de discours. Hein. Moi, ce qui m'intéresse plutôt derrière la photo que vous montrez, c'est la question de fond qui est celle de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour effectivement faire... ça disparaîtra jamais complètement, on n'arrivera jamais au risque zéro et au degré zéro du féminicide. Mais qu'est-ce qu'on peut faire sur le fond pour effectivement faire régresser ces violences que subissent les femmes et tous ces féminicides? Ça, je pense que c'est une vraie question de fond.
Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu, François Molins. Il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Peut-être que... l'une de ces vertus vous parle davantage, au hasard, la justice, mais peut-être pas.
La justice, oui, bien sûr, et la patience aussi.
Et la patience. Eh bien, ce seront vos mots, merci.
Comme me disait un ami, c'est quand on n'a pas le temps, justement, qu'il faut le prendre. Ouais. Hein, surtout quand on a des affaires sérieuses, il faut prendre le temps de la réflexion.
Merci infiniment, François Molins, d'avoir été notre invité dans Un monde à regard. Merci de vous être prêté à l'exercice. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. À très vite sur Public Sénat. Merci beaucoup.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.